Merci, bonjour. Alors, je vais essayer d'être brève pour ne plus vous retenir trop longtemps. L'idée de ma présentation, c'est de vous parler d'un projet de co-gestion des bassins versants au Maroc qu'on accompagne depuis 3 ans. Alors, ce projet n'a pas été défini à la base comme un projet d'agroécologie, mais par contre, disons, il permet de refléter beaucoup d'éléments qui sont importants dans l'agroécologie. Voilà le contexte où on se trouve. Alors, c'est un peu différent de la présentation précédente. On est dans une zone très montagneuse. Et comme son nom l'indique, le but de ce projet qui a débuté en 2016, c'est de développer de manière participative des plans de co-gestion des bassins versants, d'une part pour lutter contre l'érosion hydrique, mais aussi pour contribuer au développement économique de cette région qui est assez pauvre. Alors, le projet est mis en œuvre par la FAO sur financement de la coopération suisse. Le projet se fait en partenariat avec le Haut Commissariat des eaux et forêts et de lutte contre la désertification, qui est le ministère au Maroc en charge de ces aspects de gestion des forêts et des sols. Et puis, nous, notre rôle en tant que HAFL, c'était en fait d'accompagner le projet. On a fait ça en une très étroite collaboration avec le CDE. Donc c'était d'accompagner le projet sur des aspects plus méthodologiques, et en particulier sur les aspects de co-développement des savoirs, de diffusion des bonnes pratiques et de capitalisation. Voilà, donc ça c'est juste pour situer la région du projet. On se trouve ici, en fait, au sud du pays, dans une zone qui est à cheval entre la chaîne du Moyen Atlas, ici, et le Haut Atlas, ici. Donc on est dans la province de Mi-Delta, et les deux bassins versants s'étendent au sud de cette ville, sur une surface aussi importante qui est de 170 000 hectares environ. Alors, au niveau des systèmes de production, c'est une zone qui, à l'origine, se basait sur le pastoralisme, sur l'élevage nomade de petits ruminants, les chèvres et les moutons. Mais depuis quelques décennies, le système de production a évolué, donc il s'est beaucoup sédentarisé, même si les nomades sont encore très présents dans les bassins versants avec énormément d'animaux. Mais une grande partie s'est sédentarisée et pratique des cultures pluviales d'orge et puis aussi le long des rivières, la culture irriguée de blé, de pommes. On a énormément de cultures de pommes dans la région, aussi un peu de fourrage et puis l'élevage de vaches pour la production de lait. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer ces plantations de pommes qui se font de manière irriguée. On cultive la pomme sous irrigation là-bas, et puis un exemple de culture de blé sous irrigation. Ici, on a cette irrigation traditionnelle qui s'appelle des séguias. Voilà, alors c'est une belle région, mais qui est soumise à des défis immenses. Alors déjà, on est dans un climat très sec, et puis aussi relativement froid, hein, c'est-à-dire que pour la production de végétation, que ce soit pour la production agricole ou la végétation naturelle, on n'a pas une production qui est très importante. Ensuite, c'est une zone qui est très marginalisée. Au Maroc, on a de grandes disparités entre le nord du pays, qui a des bonnes infrastructures, et puis qui a aussi des conditions assez favorables pour une agriculture intensive, et le sud du pays qui a été beaucoup négligé par le gouvernement pour son développement. Donc on a un taux de pauvreté, d'illettrisme qui est vraiment important. Et puis on a aussi peu d'infrastructures. Hein. On parlait avant de l'importance des routes. Donc peu de routes et puis aussi peu d'accès à l'électricité, par exemple. Et puis en général, un développement économique qui est assez peu important, donc aussi très peu de perspectives professionnelles pour les jeunes, notamment. Voilà, donc ça, cette situation, elle mène en fait à une surexploitation vraiment massive des ressources naturelles. Donc en particulier, la déforestation hein, qui est causée déjà par la nécessité d'avoir de l'énergie. C'est encore le bois qui est utilisé partout dans les foyers pour la cuisine et puis aussi pour chauffer. Il fait froid là-bas en hiver. Mais voilà, il y a aussi tout un trafic illégal de bois pour le bois d'Eubre. Donc on a vraiment une organisation presque mafieuse qui vient pour exploiter le bois et le sortir de la région. Et puis on a les éleveurs qui pratiquent aussi beaucoup, qui coupent en fait les branches pour nourrir leur bétail. Surtout en hiver, il n'y a pas d'autres ressources pour agir. Voilà. Puis on a des problèmes de surpâturage qui sont aussi liés au fait qu'on a un nombre de petits ruminants qui est beaucoup trop important pour la région. Donc apparemment, il y a à peu près 4 fois trop de bétail par rapport au fourrage que pourrait produire cet environnement. Voilà, alors là, vous voyez le résultat. Hein. Donc ici, c'est ces zones de montagne qui étaient, il y a encore quelques décennies, couvertes de forêts. Hein. Vous voyez ce qui subsiste, donc on a quelques chênes verts qui subsistent et puis qui ont même déjà une drôle d'allure aussi parce qu'ils sont continuellement pâturés par les animaux. Voilà. Et puis donc les conséquences, c'est vraiment l'érosion. On voit clairement les signes d'érosion. Dans bien des régions, le sol a disparu, donc la roche est à nu. Et puis pour réhabiliter ce genre d'environnement, c'est très difficile, surtout en sachant que la végétation pousse très lentement. Voilà, alors les conséquences, bah déjà, c'est qu'on a diminution de l'infiltration du sol, de l'eau dans le sol, pardon. Alors ça, c'est illustré par cette image qu'on a prise après un orage assez violent. Donc on a eu un orage qui a duré peut-être 15 minutes, comme les bons orages qu'on a en Suisse. On voyait l'eau couler, le sol était humide en surface, mais en creusant à peine le sol, disons à 1 cm dessous, on a déjà la terre qui est sèche. Donc on n'a vraiment pas d'infiltration de l'eau. Et à la place, l'eau va ruisseler, va emmener le sol avec lui, ce qui va aussi provoquer la sédimentation des barrages qui sont là pour la production d'électricité, mais aussi pour limiter justement ces problèmes d'érosion et puis de crues subites qui vont provoquer des inondations dans la ville de Mi-Delta, mais aussi qui vont en fait clignoter, détruire les champs progressivement, comme on le voit assez bien sur cette image. Voilà. Alors j'ai choisi maintenant cette image typique pour illustrer un peu la complexité aussi du système dans lequel on travaille. Donc on a déjà, au niveau de l'utilisation des sols, différents systèmes de production avec les cultures irriguées le long des ouèdes, des rivières. On aura les cultures pluviales un peu à l'extérieur. Alors les cultures pluviales, c'est pas très important parce que c'est quand même très difficile de produire quelque chose en culture pluviale. On a peu de pluie. Ensuite, on a des zones qui sont des zones de forêt, même si ça n'y ressemble plus. Hein, mais c'est quand même des zones de forêt ici et qui sont censées justement aussi protéger la vallée. Et puis on a ce qu'on appelle les parcours. Donc les parcours, c'est le terme qu'on utilise là-bas pour les pâturages. On a aussi une straite herbacée qui peut être utilisée par le bétail. Donc ça, ce sont les différents systèmes de production. Mais on a aussi différents types de statuts fonciers. Par exemple, tout ce qui est forêt, donc la majorité des montagnes sont considérées comme terres forestières, et ces terres forestières, en fait, sont gérées par l'État, appartiennent à l'État, et sont gérées par l'État, par les systèmes forestiers de l'État, et les populations n'ont rien à dire quant à la gestion des forêts, et ont des droits très limités quant à leur exploitation. Ensuite, on a tout ce qui est terre cultivée, on a en principe un statut privé sur ces terres-là. Et puis tout ce qui est parcours, on appelle ça des terres collectives. C'est-à-dire que ce sont des terres qui appartiennent à différentes tribus. Hein, on a un système tribal qui est très organisé et chaque tribu a une certaine surface à disposition et a en principe le droit de gérer cette surface. Maintenant, sur ces surfaces-là, on a un problème d'accaparement des terres, c'est-à-dire que ces surfaces sont de plus en plus cultivées pour la pomme par des gens qui n'habitent même pas la région. Voilà. Voilà. Ensuite, on a aussi des niveaux de dégradation différents suivant les endroits, avec une priorité du projet qui est de travailler sur les surfaces les plus dégradées. Voilà. Donc ça, je vous montre pour souligner en fait l'importance qu'on a vue dans ce projet d'avoir cette approche paysagère, donc de vraiment d'avoir des activités au niveau de tout le bassin versant, aussi pour essayer de rétablir la fonctionnalité de l'agro-système, hein, donc pour rétablir le cycle de l'eau et puis cette valeur un peu protective des forêts. Et puis aussi la nécessité d'avoir une approche de co-gestion. Alors la co-gestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on mette ensemble les différents services de l'État pour travailler déjà ensemble, parce qu'on a une approche très sectorielle au Maroc. Donc par exemple, le Haut Commissariat travaille sur les forêts. Ensuite, on a le ministère de l'Agriculture qui travaille sur ces zones-là. Et puis, on a le ministère de l'Intérieur qui s'occupe des tribus et de leurs terres collectives. Et traditionnellement, ces ministères et leurs services décentralisés ne travaillent pas ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a essayé d'améliorer dans le cadre du projet. Et puis aussi d'avoir une approche plus inclusive, parce que jusqu'à maintenant, tous ces nomades, ils étaient en fait exclus du projet. Le projet travaillait uniquement avec les populations sédentaires, parce que c'était plus facile. Voilà. Et puis, donc, reconnaître ce rôle multifonctionnel de l'agriculture, mais aussi justement de l'environnement pour rendre l'agriculture plus productive. Et puis, vraiment la nécessité de promouvoir de manière active des techniques de gestion durable des terres, ce qui se rapproche de l'agroécologie. Voilà. Alors maintenant, je vais juste illustrer certains des éléments du projet pour faire le lien avec ces 10 principes de l'agroécologie qui ont été présentés avant. Je ne vais pas tous les illustrer. Voilà, donc l'approche la plus classique dans la gestion des bassins versants, c'est de mettre en œuvre une série d'interventions qui permettent de lutter contre l'érosion hydrique et puis de réhabiliter la végétation. Alors ça a été fait par le projet, par exemple, en mettant en défend des zones forestières, en pratiquant le reboisement. Ici, c'est avec le cèdre. Le problème du cèdre, c'est qu'il pousse très lentement. Hein. Ça, c'est des arbres qui ont déjà une dizaine d'années, donc c'est pour vous montrer qu'il faut vraiment du temps. Et puis en mettant en place, par exemple, ces seuils en gabion à différents intervalles dans les ravins. L'idée, c'est que les ravins se remplissent ensuite de sédiments, que l'eau s'infiltre mieux dans le sol et puis que la végétation finisse par repousser. Là. Voilà, donc on a aussi, par exemple, des cultures en terrasse qui ont été mises en place soit sur les pentes, soit même à l'intérieur des ravins d'érosion. Là aussi, donc, dans ce cas, on arrive vraiment à favoriser l'infiltration de l'eau et puis à diminuer considérablement toute cette érosion hydrique. Après, il y a les aspects de diversification qui ont été fortement promus par le projet, parce que si on veut que la population locale arrête de surexploiter les ressources naturelles, il faut qu'on lui propose d'autres alternatives. Voilà, donc là, ce que le projet a essayé de mettre en place, c'est l'apiculture, ce qui fait beaucoup de sens dans ce contexte, parce qu'on a un environnement qui est très riche en plantes aromatiques et médicinales. Tout ce qu'on voit là, par exemple, ce sont des nappes de romarin. Voilà, il y a d'autres choses. Il y a la culture, il y a la culture de plantes aromatiques et médicinales. Il y a aussi la distribution de plusieurs plants fruitiers avec l'idée de s'éloigner de la monoculture de pommiers qui est pratiquée dans la région, etc. Et puis, le projet a vraiment ciblé aussi de manière très délibérée les femmes et les jeunes pour la promotion de ces activités génératrices de revenus. Voilà. Ensuite, l'efficience. Comment, dans un système très peu productif comme ça, on peut quand même améliorer un peu la productivité? Alors évidemment, il y a tout ce qui est l'irrigation, et en particulier l'irrigation goutte à goutte qui permet d'être un peu plus économe en eau aussi. Et puis au niveau des pâturages, il y a la mise en place de ces plantations, la triplex. Hein. La triplex, c'est un arbuste qui donne un bon fourrage, qui résiste très bien aussi bien à la sécheresse qu'à la salinité des sols et qui permet de doubler, tripler, voire quadrupler la production de fourrage à l'hectare. Et puis bon, aussi, le projet a essayé de travailler avec les races un peu plus productives, donc par exemple des races croisées avec la race alpine qui permet de produire plus de lait qui est ensuite utilisé pour l'alimentation des enfants. Alors, il y a aussi des activités de transformation des produits qui ont été développées dans le cadre de ce projet. Alors, donc d'une part pour mettre de la valeur ajoutée dans la région même, mais aussi pour éviter le gaspillage. Parce qu'au niveau du pomme, la commercialisation se fait difficilement. Et puis, il y a beaucoup de pertes. Donc, on estime qu'il y a à peu près un tiers de la récolte qui est gaspillée parce qu'elle n'est pas évacuée assez rapidement vers les marchés du Nord. Donc là, ce qui a été mis en place, ce sont des unités de production de vinaigre de pomme. Et puis aussi... unité de production d'aliments bétail qui se base sur les déchets de pommes, par exemple. Voilà, et puis après, il y a, par exemple, les laiteries locales qui ont été renforcées pour... voilà, c'est un exemple du vinaigre. Et puis, là aussi, il y a des laiteries un peu plus modernes, mais qui restent tout à fait petites. Par exemple, pour pasteuriser le lait, le mettre en sachet, ou bien produire le fromage local de manière un peu plus hygiénique. Un autre produit de la région qui est très connu, c'est la laine de mouton qui est utilisée pour faire des tapis. Ces tapis de l'Atlas, ils sont très connus. Et puis, alors, ça, c'est quelque chose qui avait été évoqué par M. Orny aussi. Donc, la construction d'une route qui permet d'accélérer la commercialisation des produits. Voilà. Et puis, alors un point qui pour moi maintenant est central à ce projet, c'est de travailler un peu sur la gouvernance. Et en particulier sur ces zones de parcours, ces zones collectives et ces zones de forêt. Alors bon, un aspect de la gouvernance, ça a été d'organiser un peu tous ces groupes informels plutôt en coopérative. Et ça, c'est important parce que les coopératives, comme elles ont un statut légal, ça permet vraiment de favoriser aussi soit l'accès aux subventions. L'agriculture au Maroc est extrêmement subventionnée, mais il faut avoir une reconnaissance légale pour y avoir accès. Ou bien justement aussi de pouvoir travailler avec les services de l'État pour la gestion des terres. Voilà. Donc là, on a essayé d'identifier et puis d'appuyer un peu le développement de modèles innovants pour la gestion des terres, en particulier ces terres domaniales et ces terres collective en impliquant plus les nomades et en mettant en place des processus de co-gestion avec la population locale, ce qui est très nouveau dans le contexte marocain, parce que voilà, il y avait la vision que c'est tout l'État qui doit gérer à ce niveau-là. Et puis, comme j'ai déjà évoqué, le renforcement de la collaboration aussi entre les instituts. Alors, je vais illustrer ça maintenant avec un rapide exemple, en vous parlant de la forêt de Taouhaout. Alors ça, c'est le petit village de Taouhaout. On a à peu près 50 ménages qui vivent là. Et puis, bon, vous voyez, la zone en amont est relativement dégradée, mais un peu plus haut, on a une forêt. Voilà. Et la population a décidé par elle-même qu'elle voulait tout mettre en œuvre maintenant pour protéger cette forêt. Comme j'ai dit avant, normalement, c'est les forestiers qui sont responsables de protéger les forêts, les exploiter, de surveiller que personne n'aille couper des arbres dans la forêt. Mais, disons, les activités de réforestation et de mise en défense sont quasiment pas respectées par les populations. Donc, vous verrez sans problème des nomades qui vont faire paître leurs troupeaux dans les forêts, aussi parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Voilà. D'un autre côté, on a des institutions traditionnelles comme la Jouma, qui est le conseil tribal, qui existe depuis très longtemps et qui sont reconnus par la population. Et eux-mêmes ont aussi certains mécanismes de gestion des ressources naturelles qui fonctionnent. Le problème, c'est que ces Jouma ne sont pas du tout reconnus par l'État. Donc, l'État ne les considère pas comme un partenaire de discussion ou de planification. Voilà. Alors maintenant, ce qui s'est passé dans le cadre de ce village, il y a vraiment une mobilisation de la population qui voulait gérer elle-même cette forêt et il a fallu négocier. Donc il a fallu négocier avec le secteur forestier, mais aussi avec le CAID. Donc le CAID, c'est la personne qui est nommée par par l'autorité, par l'État, pour représenter l'État au niveau des différents villages. Et c'est lui seul qui peut, en fait, à la limite, donner la permission à une association, de, par exemple, de collecter des amendes, d'avoir certains droits. Donc, le forestier va établir des mises en défense, des plans de reforestation. Ensuite, la discussion a été faite avec le CAI pour signer un règlement qui autorise l'association à encaisser des amendes. Alors là, il a fallu créer une association avec un statut légal, parce que la Jumaa n'a pas de reconnaissance légale. Voilà. Ensuite, cette association, ben, elle a le droit de prélever des amendes si des personnes pénètrent sur les parcelles forestières, vont couper les arbres, etc. Et si cette personne refuse de payer les amendes à l'association, elle va être dénoncée au forestier qui, lui, va donner une amende beaucoup plus élevée. En fait, c'est plus avantageux de payer l'amende à l'association. Voilà. Et puis le rôle de la Jumaa là-dedans, ben, c'est de discuter avec la population qui va l'écouter et puis accepter cet état de fait. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de pratique de bonne gouvernance qui fonctionne, en tout cas pour l'instant, après quelques années. Voilà. Et puis aussi au niveau de la co-création et du partage des connaissances, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et en fait, ce qu'on a vu, donc c'est déjà qu'il y a beaucoup aussi de cas où la population va copier les expériences pilotes, mais on a aussi pas mal vu le contraire. C'est-à-dire que le projet s'est inspiré de pratiques de la population pour les promouvoir et les diffuser dans le cadre du projet. Et puis ça a été rendu possible par une activité du projet qui a été de former l'équipe locale à l'approche VOCAT. Alors l'approche VOCAT, alors avant que je parle du VOCAT, ça c'est juste un exemple de technologie mise en place par la population de manière un peu spontanée. Donc c'est des murs de soutènement qui permettent d'éviter que l'eau, juste derrière vous avez la rivière, donc d'éviter que l'eau déborde sur ces champs de pommes en cas de crue. Et puis ce qui est un peu nouveau, c'est d'avoir mis en place ces contreforts qui permettent d'améliorer la résistance de ces murs. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui a été ensuite pas mal copié par le projet et puis diffusé ailleurs dans les bassins versants. Voilà. Donc ce qui a permis ça, en fait, c'est cette approche VOCAT qui permet notamment de documenter les bonnes pratiques. Donc c'est une approche plus ou moins participative, on va dire, car chacun peut, en utilisant ses questionnaires VOCAT, documenter les bonnes pratiques et ensuite les faire diffuser. Alors ça, c'est un autre exemple de documentation. Donc les faire diffuser sur cette base de données VOCAT, où on a à la fois les technologies et les approches de gestion durable des terres du monde entier qui sont diffusées. Donc évidemment, il y a un processus de revue des documents avant qu'ils soient publiés sur les sites web. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a été aussi bien promu à travers le projet, qui donne des résultats intéressants et qui peut aussi être très adapté des pratiques agroécologiques. Voilà, alors nous, dans le cas du Maroc, on a pu pour l'instant documenter une vingtaine de pratiques. La bonne partie est déjà publiée sur le site, les autres sont en cours de revue. Et puis pour la capitalisation, on aura aussi un livret qui sera publié avec toutes ces bonnes pratiques. Voilà, je vous remercie.